Vous écoutez, on lit pour vous.
La détention à domicile et les peines dites clémentes. Un texte de Daniel W. Payette, paru le 18 novembre 2024 dans La Presse. Daniel W. Payette est juge retraité de la Cour supérieure du Québec. Depuis quelque temps, plusieurs articles font état de peines en les qualifiant de « clémentes » et qui seraient imposées par un système judiciaire laxiste. Dans certains cas, la peine consiste en l'emprisonnement à domicile du délinquant. Ces opinions suscitent chez moi quatre commentaires. Premièrement, les systèmes judiciaires canadiens et québécois ne se montrent pas cléments à l'endroit des délinquants. En 1996, la Cour suprême notait que le Canada se trouvait au deuxième ou troisième rang des pays avec le plus haut taux d'incarcération. Ce taux se trouve aujourd'hui à peu près au même niveau. Il est difficile d'en conclure à un système laxiste. Deuxièmement, une peine d'emprisonnement dans la collectivité constitue une véritable sanction punitive. Il ne s'agit pas d'une peine bonbon. Elle constitue une véritable peine en ce sens qu'elle restreint la liberté du délinquant qui se trouve confiné à son domicile et contrôlé dans ses déplacements. La sévérité des conditions qui y sont reliées ajoute à son châtiment. D'ailleurs, la majorité des personnes qui ont vécu les longues périodes de confinement décrétées par le gouvernement québécois en raison de la dernière pandémie en connaissent intimement les conséquences psychologiques, sociales, personnelles, etc. Il faut aussi savoir que la peine d'emprisonnement dans la collectivité peut durer plus longtemps, voire beaucoup plus longtemps, que la peine d'incarcération qui aurait autrement été imposée pour l'infraction commise. En effet, la période de détention subie avant procès s'ajoute à la période de détention dans la collectivité, alors qu'on la déduit d'une peine d'incarcération. En outre, elle ne peut être réduite par voie de libération conditionnelle. Enfin, le délinquant vit sous la menace constante d'une incarcération pour le résidu de sa peine s'il ne respecte pas les conditions qui y sont reliées. Ainsi, l'emprisonnement dans la collectivité lui permet d'éviter l'incarcération, mais pas la punition. Troisièmement, et même s'il ne s'agit pas d'une considération au moment d'imposer une peine, il demeure qu'il en coûte 72,9% moins cher d'assurer la garde d'un délinquant dans la communauté que de le maintenir en incarcération. Quatrièmement, il est arrivé qu'un juge laisse échapper un commentaire critique à l'endroit d'une recommandation commune des avocats qu'il accepte tout de même. De tels commentaires peinent les victimes et la population. Essentielle recommandation. Le droit criminel oppose l'État à l'individu et juge de son comportement à l'égard des normes de la société où il vit. Ainsi, le droit criminel intègre un ensemble de facteurs qui excèdent le dommage causé. Les recommandations communes constitue une partie intégrante et essentielle de la saine administration de la justice criminelle, sans lesquelles le système ne suffirait pas à la tâche. Ces recommandations sont le fruit de discussions serrées entre des parties aux intérêts opposés, mais qui connaissent les forces et les faiblesses de leur dossier. Est-il efficace de retirer une douzaine de citoyens de leur vie et de mobiliser un appareil judiciaire déjà saturé, alors qu'on peut en arriver à une entente qui se situe à l'intérieur des issues potentielles du procès? Ainsi, lorsqu'un juge accepte une recommandation commune, c'est qu'il conclut que la peine suggérée ne mine pas la confiance d'un public bien averti ou qu'elle ne va pas à l'encontre de l'intérêt public. Il s'agit alors de la décision juste et appropriée à rendre dans les circonstances. C'était la détention à domicile et les peines dites clémentes. Un texte de Daniel W. Payette, paru le 18 novembre 2024 dans La Presse.
Ces endroits où l'on vit jusqu'à 100 ans, ou presque. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse. Beaucoup de choses ont été dites sur les zones bleues, ces endroits où l'on vit plus longtemps. Elles ont même fait l'objet d'une série sur Netflix, « 100 ans de plénitude, les secrets des zones bleues ». Un chercheur britannique remet toutefois en question leur légitimité. A-t-il raison? Les montagnes de la Sardaigne, Okinawa au Japon, Loma Linda aux États-Unis, Nicoya dans l'ouest du Costa Rica, l'île grecque d'Icarie dans la mer Égée. Ces cinq endroits, que l'on considère comme des zones bleues, comptent un nombre exceptionnel de centenaires. Mais selon Saul Newman, biologiste de l'Université d'Oxford, il s'agirait plutôt de hauts lieux de fraude et d'erreurs de l'état civil. Ces endroits ont été identifiés sans qu'on envisage la possibilité que les centenaires aient pris l'identité d'une personne plus âgée ou carrément qu'il y ait des problèmes avec les actes de naissance, explique M. Newman, lauréat du prix Nobel des recherches improbables pour ses efforts. M. Newman cite comme exemple le haut taux de criminalité et de suicide en Sardaigne, le tabagisme très répandu à Icarie et les piètres habitudes alimentaires à Okinawa. C'est très facile, dit-il, de faire des erreurs administratives sur l'identité d'une personne ou sa date de naissance. On sait aussi qu'en Italie, il y a beaucoup de cas de décès qui sont cachés pour que les chèques de pension continuent de rentrer. À Okinawa, la plupart des actes de naissance ont été détruits durant la Seconde Guerre mondiale. Les autorités américaines d'occupation ont ensuite recréé ces documents selon les souvenirs des habitants. C'est très peu fiable, note M. Newman. Cinq zones bleues ou deux? Le journaliste et homme d'affaires Dan Buettner, qui a monté une firme de conseil à partir du concept de zones bleues, n'accorde pas d'entrevue au sujet des critiques de M. Newman. Mais cinq spécialistes de l'identification des centenaires, interviewés par La Presse, attaquent l'approche de M. Newman, même s'ils admettent qu'il a parfois raison. Newman cherche à publier son étude depuis 4 ans, explique le démographe Michel Poulain de l'Université catholique de Louvain en Belgique, qui, avec l'épidémiologiste Giovanni Pes de l'Université de Sassari, a utilisé pour la première fois le terme « zone bleue » pour qualifier une demi-douzaine de villages du centre de l'île de Sardaigne. M. Poulain a mis sur pied un site de recherche scientifique sur les zones bleues, distinct de celui de M. Buettner. M. Poulain estime qu'il n'existe que 2 zones bleues dans le monde, en Sardaigne ainsi qu'en Martinique. À Okinawa, il y a le problème de fiabilité des états civils et aussi l'abandon de la diète traditionnelle okinawaise pour celle des États-Unis pour ceux qui ont grandi après 1945. À Nicoya, il y a un changement dans les habitudes alimentaires néfastes qui fait en sorte que la longévité n'est plus exceptionnelle. Et je ne suis pas allé à Icarie récemment pour valider qu'il s'agit bel et bien d'une zone bleue. Quant à Loma Linda, une banlieue éloignée de Los Angeles, la présence d'une université adventiste explique son inclusion. On sait que les communautés religieuses ont des longévités extrêmes, mais les leçons de leur mode de vie ne sont pas applicables au reste de la population, soutient le démographe Michel Poulain. La vérification en Sardaigne a été exhaustive, indique le docteur Pes. Nous avons fait les arbres généalogiques de villages entiers, souligne-t-il. Nous avons ainsi détecté qu'une personne avait été mélangée avec sa sœur morte en bas âge, ce qui lui donnait 107 ans plutôt que 110 ans à son décès. Le chercheur Sard estime que seule la Sardaigne mérite l'appellation de zone bleue, parce qu'il n'a pas vérifié les analyses de M. Poulain en Martinique et opine avec son analyse pour Okinawa, Nicoya et Loma Linda. Quant à Ikari, le docteur Pes estime qu'avec seulement 8000 habitants, l'île est trop peu peuplée pour qu'on puisse faire des analyses statistiques. Certaines années, il n'y a aucun centenaire à Ikari. Difficile à prouver. La vérification des âges réels des centenaires allégués n'est pas facile à faire, confirme le démographe Bertrand Desjardins de l'Université de Montréal. Avec l'immigration, on a souvent des gens qui proviennent de pays où les actes de naissance sont moins fiables. Les médias vont rapporter que telle personne est centenaire, mais ce n'est pas vérifié. Le démographe cite un exemple connu. La Géorgie, d'où venait l'ex-homme d'État soviétique, Joseph Staline. Cette région jouissait d'une excellente réputation en matière de longévité, mais c'était parce que les hommes d'âge mûr avaient exagéré leur âge pour éviter la conscription. M. Desjardins estime que les critiques de M. Newman sont trop larges. Il méconnaît le sérieux des analyses des démographes. Âge limite et immigration. Monsieur Newman, qui fait aussi des recherches sur la biologie des plantes, toujours avec des approches statistiques, reconnaît que son étude n'a pas encore été acceptée par une revue avec comité de révision, peer review. Mais il note que deux de ses études précédentes sur la longévité exceptionnelle l'ont été dans les revues scientifiques PLOS Biology et F1000 Research. Dans les deux cas, il s'agissait de critiques d'erreurs statistiques d'études antérieures modélisant la limite théorique de la longévité humaine. Le domaine de l'étude des centenaires est aussi parsemé d'allégations peu crédibles, souligne-t-il. Aux États-Unis, le nombre de centenaires chute de moitié quand on introduit un État civil fédéral en 1910. Et en Grande-Bretagne, le comté qui a le plus de centenaires est très pauvre et compte beaucoup d'immigrants des Caraïbes. On peut imaginer qu'il y a plus de possibilités d'erreurs d'état civil il y a 100 ans dans ces îles. Vers des mesures biologiques. Pour avoir un portrait juste des régions qui comptent plus de centenaires dans les différents pays du monde, M. Newman estime qu'il faudra avoir des mesures biologiques. Comme ça, on va s'affranchir du risque de fraude ou d'erreur de l'état civil ou de substitution de personnes. La méthode la plus prometteuse, selon lui, est la méthylation de l'ADN, une dégradation du matériel génétique humain durant la vie. Son inventeur, Steve Horvath, de l'Université de Californie à Los Angeles, affirme avoir validé cette horloge épigénétique auprès de centenaires et de super-centenaires qui dépassent 110 ans. Je trouve le travail de Newman sur les zones bleues très intéressant, commente M. Horvath. Il précise que son horloge épigénétique peut faire la différence entre une personne de 120 ans et de 100 ans, mais pas entre une de 120 ans et une autre de 115 ans. M. Newman mentionne aussi deux autres méthodes permettant de calculer biologiquement l'âge. Le calcul de la dégradation radioactive du cristallin de l'œil et une analyse sophistiquée appelée racémisation des acides aminés des dents. En savoir plus, source Bertrand Desjardins. 107 ans. Âge auquel est morte la Canadienne la plus âgée née avant 1861, Marie-Louise Plante, en 1832. 117 ans. Âge auquel est morte la Canadienne la plus âgée née après 1861, Marie-Louise Fébronie-Meyer, en 1998. C'était « Ces endroits où l'on vit jusqu'à 100 ans, ou presque », un texte de Mathieu Perrault, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse.
Le Clio plaide pour un traitement digne des migrants haïtiens, migrantes haïtiennes déportées. Un texte de la rédaction paru le 6 novembre 2024 dans Alter Presse. Le cadre de liaison interorganisation, Clio, demande aux autorités dominicaines de traiter dignement les migrantes et migrants haïtiens lors de leur déportation massive et forcée de la République dominicaine vers Haïti, dans une note transmise à l'agence en ligne Alter Presse. Tout en appelant au respect des droits des ressortissantes et ressortissants haïtiens dans les déportations en cours, le Clio exhorte les autorités dominicaines à rechercher une solution plus digne qui respecte les droits fondamentaux de toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité et la couleur de leur peau. Toutes les organisations internationales et nationales, les groupes de la société civile et la diaspora haïtienne doivent s'unir pour accueillir humainement et dignement les Haïtiennes et Haïtiens déportés, encourage-t-il. Le Clio demande d'offrir également un accueil digne aux Dominicaines et Dominicains noirs jusqu'à ce qu'ils puissent retourner dans leur pays. Le cadre de liaison interorganisation estime essentiel qu'un réseau de soutien soit créé à travers Haïti et au-delà de ses frontières pour offrir l'assistance et les ressources nécessaires à ces personnes vulnérables. Il suggère d'agir rapidement pour mettre en place des installations et des services d'accueil adéquats et inclusifs et renforcer les capacités d'accueil de celles qui sont présentes le long de la frontière, afin de répondre aux besoins urgents des Haïtiennes et Haïtiens déportés. Ces besoins concernent l'accès à la nourriture, aux abris, aux soins médicaux, la mise à disposition de kits de dignité, l'accès à l'assistance juridique, afin de garantir le respect de leurs droits et de leur dignité, souligne-t-il. Face à la crise humanitaire, le Clio exprime sa solidarité avec le peuple haïtien et toutes celles et ceux qui s'engagent à défendre les droits humains et la dignité humaine. Riposte de la ministre dominicaine de l'Intérieur à une déclaration de Dominique Dupuis. Lors d'un forum citoyen, organisé le samedi 2 novembre 2024 dans la commune de Kanskoff, périphérie est de Port-au-Prince, la ministre haïtienne des Affaires étrangères et des Cultes, MAEC, Dominique Dupuis, a salué la réduction des déportations des migrantes et migrants haïtiens en République dominicaine. Cette réduction serait le fruit de nos efforts et de notre solidarité avec nos alliés, a-t-elle déclaré sur son compte X, soulignant combien Haïti aspire à un dialogue franc et respectueux avec la République dominicaine, pour un partenariat où chaque nation y trouvera ses avantages. La politique d'immigration est un droit souverain de chaque État. Aucun pays ni organisation internationale n'a le pouvoir d'interférer dans les décisions internes de la République dominicaine, a réagi sur son compte X la ministre de l'Intérieur de la République dominicaine, Farideh Virginia Raffoul Soriano. Elle réaffirme l'engagement du gouvernement dominicain dans la mise en œuvre de son plan de rapatriement. Nous poursuivrons l'objectif de rapatrier 10 000 migrantes et migrants sans papier par semaine, dans le plein exercice de notre souveraineté protégée par les lois nationales et la Constitution dominicaine. Les chiffres. Du mercredi 2 octobre au mardi 5 novembre 2024, la migration dominicaine a rapatrié 60 961 migrantes et migrants sans papier, conformément au plan de rapatriement ordonné et sûr du gouvernement dominicain, indique Farideh Virginia Raffoul Soriano. Jusqu'au mardi 29 octobre 2024, 25 575 Haïtiennes et Haïtiens, Dominicains d'origine haïtienne et autres ont été déportés par la République dominicaine vers Haïti depuis le lancement, le mercredi 2 octobre 2024, par la République dominicaine, d'une campagne d'expulsion de 10 000 migrantes et migrants haïtiens par semaine sur le territoire dominicain, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Pour sa part, la plateforme Groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, GARR, a enregistré 26 739 personnes expulsées par la République dominicaine du 1er au 30 octobre 2024. De ce nombre, on dénombre des enfants mineurs non accompagnés, des femmes enceintes sur le point d'accoucher, des Dominicains noirs ainsi que des ressortissantes et ressortissants noirs d'autres pays qui n'ont donc jamais mis les pieds en Haïti, note le Clio. Contrairement aux garanties données par le gouvernement dominicain, les expulsions sont mises en œuvre en dehors des protocoles stricts visant à respecter les droits humains et la dignité de la personne, relève le Clio. Les personnes déportées sont souvent maltraitées, blessées, démunies de leurs documents d'identité et entassées dans des camions surchargés. Ces pratiques indignes sont une atteinte à notre humanité et au respect de la dignité humaine, dénonce le cadre de liaison inter-organisation. Ces déportations massives risquent d'entraîner de graves conséquences pour les migrantes et migrants haïtiens, ainsi que pour les zones frontalières avec la République dominicaine, met en garde le Clio, une alliance collaborative réunissant 50 organisations nationales et internationales œuvrant en Haïti. C'était « Le Clio plaide pour un traitement digne des migrants haïtiens, migrantes haïtiennes déportées », un texte de la rédaction paru le 6 novembre 2024 dans Alter Presse.
Convention de l'abbé James, comprendre le Nunavik, un texte de François Bellemare, paru le 23 octobre 2024 dans le Nunavoie. À l'approche du 50e anniversaire de la Convention de l'abbé James et du Nord québécois, le Nunavoie consacre une série d'articles à cette région inuite et autochtone, située dans le nord de la province francophone, aux réalités si proches de celles du Nunavut. L'occasion de comprendre un peu mieux l'histoire, le présent et de s'ouvrir vers l'avenir du Nunavik. La compréhension du Nunavik actuel est indissociable de l'histoire politique du Québec moderne. En 1970, l'élection du premier ministre Robert Bourassa fait passer la société québécoise en mode de développement économique accéléré, entre autres par de méga projets hydroélectriques dans le Grand Nord. Dans le bassin de l'abbé James, Québec entreprend alors de construire les gigantesques barrages qui harnacheront les cours d'eau dont les environs sont fréquentés depuis des siècles par les peuples autochtones. Une bombe politique, le jugement Malouf de 1973. Le gouvernement avait oublié un détail, les lois de 1898 et 1912 sur l'extension des frontières du Québec vers le nord portaient une clause sur l'obligation préalable de consulter les populations sauvages pour tout développement. S'appuyant sur cette minuscule aspérité législative, l'Association des Inuits du Nouveau-Québec, AINQ, obtient du juge Albert Malouf, en 1973, la suspension des chantiers. Sous une pression inouïe, la Cour d'appel ayant autorisé la reprise des travaux, d'historiques pourparlers sont lancés, les représentants autochtones n'y négociant rien de moins que les conditions de leur passage brutal à la modernité. Si les Inuits mettront 11 ans à négocier des pourparlers similaires aux Nunavut, 17 dans l'Arctique de l'Ouest et 27 au Labrador, la Convention de l'abbé James et du Nord québécois, CBJNQ, ne mettra que 2 ans pour être signé d'une part par le gouvernement du Québec et ses sociétés d'État, et d'autre part par les représentants Cree et Inuit, auxquels se joignent en 1978 les Naskapi. En échange de l'abandon de leurs droits ancestraux qui n'avaient jamais été clairement définis, d'importants montants de compensation seront versés, non pas à chaque individu, mais à des sociétés de développement sous contrôle collectif. Dans le cas spécifique des Inuits, le territoire qu'ils habitent, désormais de façon sédentaire, prend le nom de Nunavik, choisi par référendum en 1986. Après bientôt 5 décennies, le bilan est mitigé. Le développement local est réel dans plusieurs domaines, espérance de vie, santé, éducation, transport, entreprise, mais il génère aussi de graves problèmes sociaux, perte d'identité culturelle, maisons surpeuplées, dépendance à l'alcool et aux drogues, violences familiales, suicides. Tous ces problèmes s'alimentant souvent l'un l'autre. Considéré comme le premier traité moderne entre blancs et autochtones, la Convention de 1975 a permis l'apparition des instances inuites actuelles, les 14 villages nordiques, l'administration régionale Kativik, la commission scolaire Kativik, la régie régionale de la santé ou l'Institut Avatak, et surtout la société Makivik, qui gère un pactole ayant permis la création de nombreuses entreprises publiques dans le transport aérien, Air Inuit, la construction, Kautak, les pêcheries, Aloutik, les communications, etc. On connaît moins la face cachée de la Convention, la division du territoire du Nunavik en 3 catégories foncières. La catégorie 1 est administrée par les municipalités locales et la catégorie 2 protège les droits exclusifs de chasse et pêche. Mais tout le reste, la catégorie 3, environ 90% du total, est sous contrôle gouvernemental. Ce décalage entre les gains réels via des instances modernes, dont le budget vient grandement du Sud, et la perte de contrôle territorial, revient souvent dans l'actualité, depuis bientôt 50 ans que s'applique la CBJNQ. C'était Convention de la BJN, comprendre le Nunavik, un texte de François Bellemare, paru le 23 octobre 2020.